Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans Histoire de savoir. Aujourd'hui, on va parler durabilité dans Histoire de savoir par rapport à un rapport qui est sorti en juin dernier, le rapport de durabilité à l'ULB. Et pour en parler, nous accueillons Annabelle Siscato. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous travaillez au service environnement et mobilité de l'ULB et vous êtes occupée de la rédaction.
C'est ça, j'ai coordonné la rédaction du rapport et la mise en page.
Voilà, et donc Pierre Creuer, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes vice-recteur au développement durable, vous êtes les deux personnes évidemment les plus attendues peut-être pour parler de ce fameux rapport durabilité. Alors c'est quoi déjà d'abord un rapport de durabilité ?
Je peux répondre, un rapport de durabilité c'est un rapport qui est un rapport transversal et collaboratif où en fait on est là pour un peu montrer et expliquer tout ce que fait l'institution en termes de durabilité. C'est un rapport qui est, vous le verrez, qui est construit en plusieurs axes. Et donc, quand on parle de durabilité en général, on pense tout de suite à peut-être biodiversité ou gestion des campus. Mais ici, c'est vraiment un rapport qui se veut transversal et donc qui reprend l'approche des 17 objectifs de durabilité des Nations Unies. Donc, on collabore avec absolument tous les départements de l'université pour faire un grand rapport de toutes les actions qui ont été menées par la période couverte par le rapport en termes de durabilité.
Et donc on parle vraiment de durabilité, mais donc durabilité c'est quand même quelque chose, comme vous le disiez, c'est un peu complexe, enfin c'est peut-être pas complexe, mais en tout cas ça en prend pas mal de dimensions différentes. Moi je croyais que c'était uniquement par rapport au réchauffement climatique par exemple.
Non, du coup, effectivement, la durabilité, c'est tout plein de dimensions et c'est sûrement quelque part la richesse aussi au travers de ce rapport, c'est de montrer tout ce que l'université fait dans les différents départements pour se montrer en phase avec une trajectoire durable par rapport à ses ressources, par rapport à la justice sociale, écologique. Et donc, on est dans ce cadre-là quand on écrit ce rapport.
Oui, parce que je voyais aussi donc, le lien avec les 17 objectifs, de développement durable de l'ONU. Donc, c'est ceux qui sont arrivés après les fameux objectifs du millénaire qui n'ont pas été atteints, en fait. Et donc là, on a fait un peu rebelote, quelque part, en doublant quand même le nombre d'objectifs. Il y a quand même, entre autres aussi, tout ce qui est l'égalité homme-femme, quelque part. L'égalité des sexes, ils disent d'ailleurs. Donc ça va dans tous les sens. C'est aussi le côté citoyen, enfin l'engagement citoyen. C'est pas uniquement de la durabilité de climat, par exemple.
Non, c'est pour ça que le rapport est donc axé autour de 6 axes et qu'on passe à la fois, donc ça va du côté très pratique de la gestion des campus, la gestion énergétique, la gestion de la biodiversité de nos espaces verts. On est une université où on gère un parc d'espaces verts assez important, mais aussi très bien, on parle de la communauté. Donc on a tout un rapport et des parties qui sont centrées sur genre et diversité, la santé et bien-être, que ce soit au travail ou pour les étudiants. Et on parle aussi de la carrière, par exemple, ou encore de comment l'ULB s'inscrit dans son territoire et comment elle interagit avec les différentes communautés qui la composent, et que ce soit à Charleroi, par exemple, ou à Bruxelles.
Avec un aspect, je pense, qu'on a essayé de renforcer et qu'on va devoir renforcer encore plus sur les années à venir, qui est celui de nos missions centrales dans l'université, c'est-à-dire l'enseignement et la recherche, c'est préparer les jeunes générations aussi à intégrer ces trajectoires de durabilité aujourd'hui, mais dans ce qu'ils vont faire dans le futur. Et donc c'est d'essayer d'intégrer toutes les notions de durabilité, mais dans toutes leurs dimensions, effectivement, dans notre quotidien d'une université, au travers de notre travail de recherche, de notre façon d'enseigner, des notions qu'on enseigne également.
Alors c'est ça qui est étonnant aussi, c'est qu'on connaissant l'ULB, on sait que c'est une université engagée. C'est une université qui est quand même aussi à la pointe de tout ce qui se passe dans le monde. Et finalement, c'est que le deuxième rapport de durabilité, le premier date de 2022. Donc là, ici, on est dans une période qui couvre 2022 à 2024. On se dit qu'un deuxième rapport, enfin, on parle depuis très longtemps de durabilité. Pourquoi ce n'est que le deuxième, quelque part ?
Alors, il y en a eu avant 2022 qui n'ont pas été rendus publics, qui ont été plutôt des documents internes de travail. 2022, c'est le premier qui a été rendu public et qui a été publié parce qu'il y avait ce souhait de pouvoir faire un grand catalogue, un état de l'art de tout ce que fait l'ULB en matière de durabilité. Donc, il y a eu un moment donné où on s'est posé, on a vraiment interrogé tous les membres de notre communauté pour faire ce grand catalogue de durabilité. Ce deuxième, maintenant, nous sommes plus partis sur l'idée de faire la preuve et de faire un peu un état d'avancement de ce que nous avions déclaré et décidé en 2022, notamment des objectifs que nous nous étions fixés.
Peut-être pour retourner un tout petit peu en arrière, je crois que là, ça fait à peu près 20 ans qu'on a une politique environnementale qui est inscrite dans l'ULB. Le rapport durabilité 2022, il suivait un petit peu le plan climat que l'ULB a voté en 2019, donc il s'inscrit dans une trajectoire qui est voulue par l'université, je dirais. Et comme Annabelle vient de le dire, après 2022, on est maintenant dans la démonstration, le suivi de ce qu'on a essayé de mettre en place, de nos objectifs stratégiques, etc. Donc c'est vrai que ça peut sembler tard, mais on est quand même sur 20 ans d'héritage, d'actions qui se mettent en place dans une université qui bouge.
Voilà, mais qui est donc peut-être moins visible, en fait, moins visible au grand public, peut-être.
Oui, c'est sûr que le rapport durabilité, en tout cas, c'est la lecture que moi j'en fais maintenant et c'est celle que j'avais fait du rapport de 2022. Il a ce côté rassembleur qui, je pense, est important dans l'institution, qui montre la diversité des actions qui sont menées, qu'il était peut-être de façon un petit peu plus isolée avant. Et là, on essaye d'intégrer pour donner aussi une vision, un mouvement et de montrer à tout le monde, y compris les plus jeunes, qu'on est dans la trajectoire qu'on s'était fixée, dans nos objectifs.
Alors, vous dites donc qu'il y avait des objectifs en 2022. Il y en a des nouveaux, j'imagine, en 2025 pour 2028, peut-être. C'est ce qui est prévu?
Oui, ce sont des objectifs. Il y a des objectifs à la fois à court terme et des objectifs à plus long terme. Dans le rapport, on a plutôt présenté les objectifs à court terme en espérant, pour ce prochain rapport, pouvoir faire un suivi et pouvoir revenir dessus et en faire le bilan.
Oui, on s'était fixé une trajectoire à 2030 dans le plan climat. Et donc, sans doute, on va devoir commencer à réfléchir à ce qu'on voudra au-delà de 2030. Mais c'est clair que là, pour le moment, on est dans la suite de ce qu'on a essayé d'amener. Premier rapport en 2022, en 2025. On espère en faire encore un en 2028 sur base de ces 6 axes dont on a parlé, sur base des objectifs qu'on s'était fixés. Et évidemment, il y a des choses qui vont certainement se rajouter, étant donné, on va dire aussi, la façon dont le monde est en train d'évoluer, autant par rapport aux politiques environnementales qu'aux politiques sociales. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être bousculées, et nous, on devra se montrer réactifs, en même temps fermes sur nos objectifs, mais pouvoir s'adapter justement à ce monde en bouleversement.
Mais ce monde en bouleversement, justement, vous dites qu'il faut se montrer solide par rapport à ça. Ça ne fait pas peur, justement, de voir un peu comme ça va pour l'instant au niveau social en Belgique, mais ailleurs aussi, et au niveau de l'environnement qui n'est plus vraiment une des préoccupations majeures de pas mal de gouvernements.
Non, c'est là que, évidemment, c'est pas, ça fait peur. D'un côté, je pense que ça fait peur. D'un autre côté, ça nous fait retourner sur nos valeurs, sur le rôle que doit jouer une université. Et moi, je pense que ça doit nous renforcer. On est sur, nous, en tout cas, des valeurs qui sont très, très fortes sur les politiques environnementales, sur les politiques sociales, sur les politiques d'inclusion, de solidarité. Et je pense que ça fait la force d'une université. Donc, on doit se montrer un rempart par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur, tout en essayant de nous ouvrir vers l'extérieur aussi. Donc, on doit être perméable, mais en tout cas d'être ferme sur ces valeurs-là.
Voilà. Alors, je vous propose maintenant de passer aux 6 axes, si vous voulez bien. Donc, quels sont les 6 axes sur lesquels vous avez travaillé pour 2025, mais c'était les mêmes en 2022?
Oui, le rapport est divisé en 6 axes. Nous avons donc l'enseignement, la recherche, la gestion des campus, l'axe sur la communauté, la société et enfin la gouvernance.
Voilà. C'est comment se sont choisis ces 6 axes?
Ils ont été définis en 2022. Il y avait cette idée d'essayer d'organiser un peu toutes les actions de l'université en reprenant justement ces objectifs de durabilité et de les regrouper par thématique et par objectif de durabilité. C'est pourquoi à chaque fois dans le rapport, vous remarquerez qu'en bas de page, on note à chaque fois bien les ODD auxquels se rattache chaque partie ou sous-partie.
Voilà, mais ça a dû être un travail en amont hyper hyper dense, en fait. Ça reprend tellement d'éléments. Donc, 6 axes, c'est déjà pas mal. Mais dans ces 6 axes, il y a à chaque fois énormément de points. Comment est-ce qu'on fait pour tout compiler
Donc, il y a le travail qui a été, je pense, effectivement colossal d'essayer de compiler, de rassembler les informations qui viennent des différents départements. Parce que, de nouveau, c'est pas quelque chose qui est dans les mains de quelques personnes. On essaye vraiment que la communauté soit mobilisée. Donc, tout ce travail-là, il prend du temps, mais en même temps, c'est ça qui donne le côté rassembleur, je pense. Et donc, il y a une vraie volonté d'essayer d'amener les gens à y contribuer. Et je pense que quand on voit le résultat, ben, on a ce sentiment que les choses bougent un petit peu partout et que ça va dans la même direction. Et ça, je crois que c'est très valorisant quand on fait un rapport comme ça. Après, peut-être qu'il faut noter aussi que sûrement, il y a des choses qu'on manque. On a les informations qui nous reviennent. C'est aussi un rapport qui est, je vais dire, dirigé, centré sur l'institution. Il y a des actions qui sont plus individuelles ou menées dans certains départements, certaines facultés. On en a introduit certaines. Mais voilà, il y a sûrement des choses qui sont passées sous le radar et qui sont peut-être aussi des choses importantes. Et c'est peut-être le propre d'une université. Il y a des petites étincelles à gauche, à droite. Ici, ça rassemble, on va dire, l'essentiel.
C'est un mastodonte quand même, l'Université libre de Bruxelles.
C'est un mastodonte qui a ses avantages et ses inconvénients. Je crois que la liberté y est très forte. Et donc le côté rassembleur qu'on essaye d'avoir ici, c'est un effort.
C'est un solide effort.
Il est important, mais je crois qu'on doit aussi laisser à l'ULB sa spécificité d'action individuelle qui se rassemble à certains moments dans le collectif.
Parce que quand on voit les chiffres, c'est ça qui est super intéressant aussi, et de se dire, bah ouais, voilà, je fais partie de l'ULB, c'est trop bien. 38 000 étudiants, 1500 membres du personnel académique, donc 565 professeurs. Donc ça, c'est rien qu'au niveau de l'enseignement. Au niveau de la recherche, on a 300 unités de recherche, dont plus de 50 contribuent aux enjeux de la durabilité. C'est quand même pas mal quand même. 3500 chercheurs et chercheuses, dont 2100 doctorants. Je vais arrêter un moment, je vous promets. Mais je voulais venir aussi sur la gestion des campus. C'est quand même 480 700 mètres carrés de surface de plancher brut. J'ai trouvé ça fabuleux. C'est impressionnant.
C'est très grand. C'est, je pense, une des plus grandes universités de Bruxelles et de Belgique. Donc oui, c'est vrai que... On ne gère pas une université comme on gère une faculté. Et donc oui, c'est un rapport justement qui essaie de absolument tout couvrir, mais c'est forcément compliqué. Et c'est vrai que ce rapport est beaucoup illustré avec des chiffres, parce que c'était un de nos souhaits, c'était de remettre un peu les proportions. Voilà, quand on parle de l'université, on parle exactement de ça, on parle d'un mastodonte. Et donc forcément, les actions qu'on essaye de mettre en place ont un impact aussi sur une communauté qui est assez importante.
Oui, si on parle juste gestion des campus, on est voilà, il y a les mètres carrés, il y a aussi l'histoire. On doit travailler avec des bâtiments qui ont l'âge qu'ils ont, des politiques qui ont été menées sur certaines années qui n'étaient pas vraiment orientées sur l'écologie. Et donc on retravaille un petit peu cet ensemble de campus pour essayer de lui donner une orientation telle qu'on voudrait l'avoir dans les politiques de durabilité.
C'est vrai, quand on voit le campus il y a 30 ans et aujourd'hui, c'est quand même vachement différent.
C'est vachement
celui-ci,
différent.
Celui-ci, hein, le Solvauche, hein, je parle.
Oui, pour moi, j'y étais aussi il y a 30 ans. Je dirais que ça a avancé par vagues, avec des moments où il y a eu plus de construction, moins, etc. J'ai l'impression qu'on est arrivé là, grâce aux politiques qui ont été menées depuis... quelques années à une volonté d'aller vers quelque chose qui est plus intégré, plus homogène, que la durabilité s'exprime mieux au travers quand on circule dans le campus, en tout cas, on a l'impression qu'elle est plus présente, en tout cas, elle est plus ancrée qu'avant.
Je me souviens quand même de l'avenue Paul Léger qui était un parking.
Qui était un parking, oui, tout à fait.
On se dit que là, c'est quand même
Tandis qu'elle elle devient belle, c'est un des projets qui est mené sur... le projet Rambla, sur lequel on voudrait la rendre tout à fait piétonnière, plus d'avoir de camionnettes, etc. Mais elle devient effectivement un espace de vie, et je pense que c'est important, un espace de vie, un espace plus vert, qui va, j'ai envie de dire, qui est quelque part le catalyseur aussi pour les jeunes, de sentir qu'ils sont dans un campus, qui est durable et que pour eux, si on veut leur enseigner la durabilité, les mettre sur ces trajectoires-là, ils doivent aussi vivre dans cet environnement. Et je pense qu'on est en train de mener des actions qui vont tip-top dans cette direction-là.
C'est vrai qu'elle est agréable comme avenue.
Oui.
Si on prenait, si vous êtes d'accord, le premier axe, enseignement, et donc là, c'est quand même une volonté de placer en fait la durabilité dans des cursus universitaires. Et donc là, il y a un projet qui a émané là en 2022, c'est Educo. Vous pouvez nous en parler?
Oui, donc effectivement, je crois que c'est ce dont on a parlé là au début dans nos missions prioritaires dans l'université. Il y a évidemment l'enseignement et la recherche. On doit amener les jeunes générations à réfléchir autrement, à réfléchir de façon plus transversale, plus systémique, à appréhender les enjeux futurs, là où on était plutôt en train de travailler dans ce qu'on appelle des silos, un petit peu chacun dans son coin, dans les facultés. Et du coup, avait cet objectif d'aller chercher les facultés, de leur dire, voilà, on peut vous proposer un accompagnement si vous êtes volontaire pour transformer vos programmes, intégrer des cours, modifier certaines actions pour justement que ces aspects-là de transition, de transformation, elles commencent à se sentir aussi dans notre enseignement. Alors c'était un programme qui a été proposé aux facultés sur une base volontaire. On a 6 facultés qui ont répondu. Chacune avec des demandes assez spécifiques, c'était différent. Et donc le but d'Educo, c'est pas d'amener les choses du haut vers le bas, c'est plutôt d'essayer de répondre à des attentes et d'essayer d'offrir un vrai support pour qu'on fasse des petits pas dans les facultés, qu'on commence à enlever certains verrous pour qu'on puisse avancer vers quelque chose de plus cohérent.
De verrou, quand vous dites, en fait, c'est un peu cadenassé, quoi. Les programmes de cours sont cadenassés et c'est difficile d'en changer. Ou c'est difficile d'amener une nouvelle perspective, un nouveau cours. Je ne sais pas si c'est...
Alors, bon, c'est certain que les programmes sont assez cadenassés, un peu comme tout ce à quoi on fait face. Il y a un historique. Moi, en tant que professeur, je pense qu'on peut se réjouir de la force de nos programmes. Déjà maintenant, j'ai l'impression qu'on a toujours bien formé nos étudiants. Maintenant, il y a quand même cette... je vais pas dire cette certitude, mais on sent bien qu'on va devoir changer les choses. Et changer les choses, ça passe par une modification de nos programmes, de notre façon de faire, de notre façon d'enseigner. Et oui, là, il y a certains verrous, il va falloir qu'on essaye de les faire sauter, mais peut-être pas dans une grande explosion, faire sauter un à un. Ça doit aussi passer par les étudiants, qu'eux commencent à pousser, montrer qu'ils sont demandeurs de ces changements. Et du coup, il a cette volonté-là, hein, d'amener les communautés à réfléchir sur la manière de faire. Je pourrais peut-être ajouter une dimension sur l'enseignement, mais qui touche aussi à la recherche, et qui a été une des grandes dernières nouveautés dans nos actions. C'est le fait qu'on a lancé en décembre 2024 le REACT, qui est le réseau académique pour les transformations socio-écologiques, et que dans ce réseau-là, qui rassemble en fait des académiques, des étudiants du corps scientifique du PATGS, on essaye de toucher toutes ces problématiques d'enseignement et de recherche. C'est en même temps un incubateur d'idées, un catalyseur, d'essayer de voir ce que les autres ont fait, de pouvoir le transformer dans une autre faculté. Et donc on a démarré ça il y a un petit peu moins qu'un an, on a eu plusieurs réunions, et c'est un espace vivant où justement ce sera peut-être là qu'on va pouvoir tirer certains leviers, faire bouger les choses.
Mais c'est intéressant, ça, REACT, c'est plus dans l'axe recherche alors à ce moment-là. Mais finalement, oui.
REACT, c'est vraiment recherche et enseignement. Donc Educo, on ne va pas dire qu'Educo est rentré dans REACT, mais en tout cas, tout ce qui se fait dans Educo a un retentissement dans le REACT également.
Et alors quoi, ce sont des nouveaux cours que vous proposez, de nouvelles activités d'apprentissage qui sont en lien avec la durabilité et en lien aussi avec la faculté, parce que je suppose qu'on ne donne pas le même cours en faculté de philo, je ne sais pas si ça existe en faculté de philosophie, mais voilà, en philosophie qu'en polytech par exemple.
Alors dans tout ce qui touche à la durabilité dans l'enseignement, il y a une volonté d'abord d'avoir des cours qui sont des cours assez généraux sur c'est quoi la durabilité, c'est quoi les limites planétaires, c'est quoi les bouleversements environnementaux, c'est quoi les politiques à mettre en place. Et donc ça, c'est des cours qui peuvent être donnés, qu'on essaye d'ailleurs de donner dans toutes les facultés, à un niveau plutôt bachelier dans les premières années du cursus. Mais après, évidemment, les étudiants évoluent et la durabilité, on voudrait qu'elle s'intègre dans des cursus plus spécialisés, avec des cours qui sont plus spécialisés. Et donc, dans les avancées, dans les réalisations des années passées, il y a eu, quelque chose de pareil qui a rassemblé la communauté. C'est un cours transversal d'introduction aux enjeux de la durabilité. Il est proposé dans différents cursus, pas encore dans tous les cursus, il n'est pas obligatoire dans tous les cursus, mais il est effectivement proposé dans différentes facultés, que ce soit dans les sciences naturelles ou dans les sciences humaines. Donc ça, c'est le premier socle, et nous, maintenant, on essaye de renforcer, une fois que les étudiants ont eu cette introduction, d'aller vers des cours spécifiques. On pense peut-être même aller jusqu'à un parcours durabilité qui pourrait être proposé aux étudiants de différentes filières quand ils auraient suivi un cours général, un cours spécifique, de l'expérimentation, puisque ça aussi c'est important dans la durabilité, un stage, un mémoire qui touche à ces matières-là. Donc on est en train de commencer en tout cas à façonner les programmes pour que ça percole à différents niveaux dans le cursus de l'étudiant.
Ce qui est dingue, c'est qu'en fait c'est tellement vaste, en fait, la durabilité, ça touche à tellement de de dimensions, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on parlait de justice sociale, on parle, enfin, le premier objectif de développement durable de l'ONU, c'est quand même zéro pauvreté. Donc finalement, ça pourrait en fait marcher dans toutes les facultés, dans tous les cursus en fait.
Oui, mais ça marche. Hein. Donc, ce cours transversal, il est intégré dans plus en plus de facultés.
C'est intéressant.
Et, oui, c'est intéressant. Et je pense que la façon dont il s'est construit, bah, il a été réfléchi hein, avec les notions de durabilité. Mais j'ai le sentiment que les étudiants s'approprient ça. Donc, ils ont des projets à faire en interfacultaire. Ils se rencontrent. Ils ont des visions différentes. Ils les mélangent, ils les partagent. Et c'est important qu'on fasse justement ce cours-là dès les premières années, parce que c'est aussi un effet de communauté qui est capable de faire sauter des verrous.
Voilà. Et donc dans la recherche, ça c'est le deuxième axe, la recherche. Donc après l'enseignement, la recherche. Donc là, vous avez expliqué REACT. C'est un peu, c'est à ce niveau-là qu'on agit essentiellement dans la recherche. C'est essayer de pousser aussi peut-être des chercheurs à chercher, je ne vois pas très bien comment dire ça d'autre, à travailler sur des questions de durabilité.
Oui, certainement. Et donc, alors c'est vrai que dans le REACT, on va toucher à certaines questions de recherche. On organise au travers du REACT une journée annuelle qui rassemble les chercheurs, et on a justement cette volonté que ce soit de nouveau des chercheurs de tous les domaines, et on essaye de définir un sujet autour des bouleversements environnementaux, donc des limites planétaires, mais sous différents angles. La première année, on l'avait ciblé sur les limites planétaires en tant que telles. L'année d'après, on l'a fait sur les risques qui étaient associés au dépassement de ces limites, mais dans toutes les dimensions, justement sociales, économiques, environnementale. Et cette année, on avait centré la journée sur les fractures géopolitiques et justement comment la politique influence nos trajectoires vers la durabilité, ou ce qu'on est en train de voir pour le moment d'un petit retour en arrière, et comment nous on devait se positionner par rapport à ça. Donc ça, on va dire que c'est un côté rassembleur de la communauté de chercheurs. Et puis on a aussi un institut interfacultaire sur les transformations socio-écologiques qui a été créé dans cette optique-là, qui est peut-être moins science naturelle, mais qui a cette volonté aussi de rassembler la communauté autour de ces questions.
Et dans cet axe-là, qu'est-ce que j'ai vu ? Évidemment, ça a attiré mon attention, parce que ça me questionne beaucoup. C'est le congé sabbatique durabilité. Alors, c'est peut-être juste un détail dans les 64 pages, mais voilà, je me suis posé la question, je me suis vraiment demandé ce que c'est.
Alors, le congé sabbatique durabilité, congé sabbatique, c'est l'occasion qu'on donne à des académiques de se décharger de certaines de leurs tâches dans l'université pour se consacrer soit à leur recherche, soit à leur enseignement. Et qu'on a, donc les sabbatiques existent, les demandes de congés sabbatiques existent depuis longtemps. Ce qu'on a introduit, c'est des congés sabbatiques qui auraient une vocation à augmenter la durabilité dans l'enseignement et dans la recherche. Donc on donne l'occasion à des académiques de dégager du temps pour changer le contenu de leurs cours ou la façon d'enseigner ou d'orienter leurs recherches vers des matières qui touchent à la durabilité. Donc c'est un programme qui a été lancé il y a quelques années avec quatre bourses de durabilité dans ces congés sabbatiques qui ont été accordés. Et c'est un plaisir de voir que les demandes sont là. On a de nombreux académiques qui arrivent avec une demande où il y a un axe de durabilité qui est intégré. Et donc on sent aussi que la communauté de chercheurs est mobilisée autour de ces questions. Et je pense que c'est un des outils qui va nous servir dans le futur pour faire monter en puissance encore ces actions de durabilité.
Voilà, l'axe 3 qui est un des je sais pas pourquoi, un des plus importants peut-être, enfin plus conséquent, c'est la gestion des campus, parce qu'il y a quand même 7 campus à l'ULB, 123 bâtiments, ce qui est quand même franchement pas mal, 48 000 personnes, donc 38 000 étudiants, on l'a déjà dit, hein, plus de 6 000 membres du personnel. Et donc tout ça, il faut que ça fonctionne avec une optique de durabilité. C'est un sacré objectif, un sacré défi.
Je peux répondre, oui, c'est un sacré défi. C'est pour ça, c'est ce à quoi travaille le service environnement et mobilité. Donc on est à la fois sur la coordination des politiques environnementales de l'ULB, et mais aussi sur la mise en place d'une politique de mobilité durable au sein de l'université. On n'est évidemment pas seul, on est beaucoup aidé par d'autres services et d'autres départements, notamment je pense au département et à la cellule énergie qui s'occupe de la rénovation de tous nos bâtiments. Et qui a d'ailleurs, vous verrez, c'est assez technique dans le rapport, mais tout un programme de rénovation, de mise en place et de production d'électricité verte et localement, produite et consommée par l'ULB.
Oui, je crois que dans la partie gestion des campus, bah d'abord, on en a parlé, il y a plusieurs campus, il y a beaucoup de mètres carrés, il y a beaucoup de bâtiments, beaucoup de vieux bâtiments. Et donc, chaque action a son sens, chaque action s'inscrit dans notre plan climat, dans cette volonté d'aller vers moins d'émissions, d'aller vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement. Et donc, effectivement, ça prend de la place, parce que ce sont des actions qui sont très concrètes, qu'on a besoin de faire, d'intégrer ces nouvelles politiques, on a besoin de faire changer les mentalités, on a besoin de changer nos campus, ce dont on parlait, de déminéraliser, de ramener de la végétation, de la biodiversité. Ce sont des actions qui prennent de la place et qui sont importantes, parce que, de nouveau, elles sont quelque part... Bah d'abord, c'est très concret. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, biodiversité, etc. Et puis, comme je le disais, c'est aussi nos endroits de vie, et que nos endroits de vie doivent nous pousser vers le haut dans tout ce qu'on fait au quotidien, dans l'enseignement et dans la recherche. Mais donc pour ça, on a besoin d'avoir des endroits de vie qui sont dans cette cette même philosophie.
Pourtant, quand on voit, il y a quand même ici au Solbosch, par exemple, qui est quand même le plus ancien campus de l'ULB, qui date pas de 1919, je crois, non, c'est pas ça, 1900, c'était après une 1900, début 19e, début 20e, ça c'est sûr. Des bâtiments comme ça, évidemment, n'étaient pas pensés à l'époque de façon durable, ou justement si, peut-être de façon durable. Mais par exemple, quand on voit ce bâtiment A ou le bâtiment U sur le Solbosch, ce sont des vieux bâtiments qui tiennent, qui sont beaux aussi, mais je suppose que c'est parfois une déperdition énergétique, c'est tout des choses qui doivent être travaillées.
Qui sont évidemment travaillées. On a un objectif de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre qui est stipulé dans le plan climat, et sur lequel on va travailler de différentes manières. Il y a effectivement la rénovation des vieux bâtiments, avec une priorité sur nos passoires énergétiques. On en a quand même plusieurs. Et on travaille évidemment là-dessus, c'est principalement au niveau des infrastructures à l'ULB, mais avec des objectifs chiffrés qui sont très nets. Et donc on met en œuvre une politique, je pense, assez forte par rapport effectivement à notre campus qui est relativement vieux, si on se compare à d'autres universités. Et donc on n'est pas dans les mêmes réalités, et on travaille avec ce qu'on a. Effectivement, on a certains bâtiments qui sont vieux, qui sont aussi notre vitrine, mais qui doivent être rénovés pour rentrer dans des standards plus corrects écologiquement.
Et pourtant, d'après le rapport, depuis 2022, il y a quand même pas mal de choses, de défis qui ont été... qui sont confirmés, en fait. Je voyais dans le rapport: accélérer la mise en œuvre des actions prioritaires pour atteindre les objectifs 2030 du plan climat. Bim, ça c'est fait, c'est bon. Par exemple.
Oui, je crois que tous les programmes et actions du plan climat sont maintenant budgétés, approuvés et planifiés.
Ah ben officiellement. Voilà. Donc oui. Ça avance, en fait. Ça doit donner quand même une certaine satisfaction de se dire que ce travail, en fait, de rapport percole, en fait, et permet des avancées. Vous avez vu des avancées depuis 2022, j'imagine.
Oui, je pense que c'est très clair, et c'est de ce dont on parlait au début. Ça donne quand même le rapport en tant que tel. C'est un engagement, et ça amène toute la communauté à se rendre compte du fait qu'on a, on a pris ça vraiment très au sérieux, le plan climat, les objectifs qu'on s'est fixés dans le plan climat, et que les réalisations sont là, elles ont démarré, comme dit Annabelle, la plupart des programmes sont en, en très bonne voie, avec des réalisations qui sont déjà très concrètes. Et donc oui, je pense que quand on fait ce rapport, on peut être fier aussi de ce qu'on a mis en place.
Et je vois que par exemple, en projet pour 2025-2027, il y a concevoir la politique du numérique responsable et un plan donc sur 5 ans, parce que là, on est, enfin, le numérique responsable, on en parle beaucoup aujourd'hui, et puis en fait, à côté de ça, il y a l'intelligence artificielle qui explose, mais quand je dis qu'elle explose, c'est même plus une explosion, c'est pire que ça, c'est une déflagration, qui est une explosion, mais soit. Voilà, auprès des étudiants, ça, je suppose que c'est encore quelque chose d'encore plus... Fin, c'est compliqué à mettre en route, parce que le numérique évolue chaque jour, quasi...
Oui, c'est sûr que tout ce qui concerne le numérique, c'est une petite bombe quelque part dans le monde actuel d'une façon générale, que ça vient bousculer notre façon de faire de la recherche, ça va bousculer notre façon de faire de l'enseignement. On doit progresser avec ça, évidemment, y a plein de choses qui sont très favorables, qui viennent avec l'intelligence artificielle dont on doit essayer de bénéficier. Il y a un impact écologique, on doit le prendre en considération, et donc on travaille là-dessus également.
Alors justement, en matière de mobilité, vous disiez donc dans la gestion des campus, il y a la mobilité aussi qui entre en jeu. On le voit à l'ULB, au Solbosch, je vais arrêter de dire à l'ULB parce que l'ULB c'est trop de campus. On le voit au Solbosch, il y a un énorme parking qui est souvent rempli d'ailleurs. Il y a de plus en plus de points où on peut mettre son vélo. Comment est-ce qu'on peut améliorer la mobilité dans un campus, sur un campus, sur une université d'ailleurs?
Il y a plusieurs façons de l'améliorer. Alors c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a un énorme parking au centre du campus. Après, c'est le nombre de places n'est pas gigantesque par rapport à la population qu'on a dans l'université et qui fréquente le campus du Solbosch. Bon, on pourrait parler des autres campus également. Maintenant, c'est vrai qu'on est quand même dans une volonté forte d'aller vers de la mobilité douce et qu'on a la chance d'être au cœur d'une grande ville avec des transports en commun, une accessibilité qui est relativement simple depuis la périphérie de Bruxelles, plusieurs gares qui sont aux alentours. Et quand on voit l'évolution des modes de transport, mais on sent qu'il y a, en tout cas pour les campus qui sont facilement accessibles, qu'il y a une diminution de l'utilisation de la voiture, et on va mettre tout en œuvre pour qu'elle se poursuive. Et ça passe par une meilleure gestion des parkings, peut-être une gestion plus juste aussi, ce qu'on a essayé de faire avec les parkings étudiants, de vraiment laisser les places à ceux qui ont le plus de difficultés à arriver sur les campus. On a une politique de voyage responsable par ailleurs, alors ça sort un petit peu de la politique des parkings, mais d'essayer qu'on voyage à l'étranger plutôt en train quand c'est possible qu'en avion. Donc on essaie de minimiser notre empreinte de différentes façons. On a des remboursements aussi pour les trajets domicile-travail. Donc il y a plusieurs actions qui sont menées pour amener les gens à aller vers une mobilité moins coûteuse en termes écologiques.
On va devoir accélérer un peu, là on ne va jamais arriver au bout de 6 axes, puisqu'on est déjà presque à la fin. Mais donc l'axe communauté, c'est l'axe 4, et là c'est là où on entre dans peut-être autre chose que le côté, entre guillemets, hein, écologique, climat, avec favoriser l'émancipation de tous et toutes. Ça passe par quoi ?
Ça passe d'abord par... je pense une politique d'inclusion qui a toujours été présente dans l'université, qui se renforce, qui vient aussi de la façon dont les jeunes voient le monde d'aujourd'hui, dans la façon dont ils ont envie de le voir demain. Et je pense qu'on est à l'écoute. Sûrement par rapport aux jeunes, on ne va pas assez vite, on ne va jamais assez vite, mais je pense que les actions qu'on a menées en termes d'inclusion, de diversité, de genre, je pense qu'on est sur des actions qui vont dans le sens qu'ils ont envie d'avoir, que nous on voudrait avoir. On veut être en phase en fait avec notre jeunesse, et je pense qu'on est là-dedans. Donc je pense que l'émancipation c'est ça, c'est de sentir qu'on est en train de construire des jeunes qui ont une représentation du monde plus juste, plus égalitaire, que celle qu'on avait avant. On doit leur donner les outils pour le faire. On doit leur donner un environnement dans lequel ils peuvent grandir pendant leurs années passées à l'ULB. Et donc, c'est aussi de c'est modifier nos campus, nos accompagnements pour aller dans cette direction-là.
D'ailleurs, il faudra faire un truc pour Radio Campus. Les personnes à mobilité réduite ne savent pas monter jusqu'ici. Et c'est un peu... Voilà. c'est toujours noté. Un problème. Mais on fait nos émissions après du point culture. Hein, mais voilà, quand on a des personnes à mobilité réduite. Et donc, il y a un axe société. Donc ça, c'est cultiver l'engagement citoyen. Ça rejoint peut-être un peu le point précédent. C'est l'idée de faire aussi communauté dans une société.
Oui, et que clairement, quand on regarde les démarches de durabilité, c'est ça aussi, c'est de pouvoir montrer, par rapport à une université, hein, c'est de pouvoir montrer que l'université, elle est pas isolée, elle évolue dans une ville, dans un pays. On doit se montrer perméable, on doit comprendre les questions qui nous viennent de l'extérieur, on doit pouvoir essayer d'y répondre, on doit pouvoir essayer de s'intégrer dans des projets qui font sens. Pas juste dans l'université, qui font un sens commun, et dans les actions d'enseignement, c'est ça aussi, c'est d'amener les jeunes à sentir que leur rôle, il est là, il est dans le questionnement, le partage d'informations pour aller dans des actions qui s'inscrivent dans un monde plus général que juste leur bulle, et que sûrement que la bulle universitaire. Donc oui, quand on parle de la société, c'est vraiment aller dans ces deux directions, ce que la société attend de nous, ce qu'on peut leur donner en même temps.
Et enfin, l'axe 6, c'est la gouvernance, planifier la transition à l'ULB. En fait, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu la conclusion de l'ensemble des points, c'est que finalement, il faut une bonne gouvernance pour arriver à tout cela?
Oui, c'est peut-être l'occasion de... Alors, je suis peut-être mal placé pour le faire, mais de remercier les autorités d'avoir accordé cette importance à la durabilité. Donc, on a un vice-rectorat de la durabilité qui a été introduit il y a 5 ans. Donc, la majorité du rapport ici, il a été fait sous le vice-rectorat de Charline Urbain. Donc, moi, je suis arrivé juste après. Et donc, oui, il y a une vraie volonté dans la gouvernance que ces notions-là soient fondamentales, elles soient au cœur de notre action. Et évidemment, ça guide l'entièreté des départements dans leur réalisation et leur vie au quotidien.
Voilà, vous savez quoi, on est déjà à la fin de l'émission. Il y avait quelque chose que vous vouliez souligner absolument par rapport à ce rapport durabilité que je n'ai peut-être pas évoqué et qui pour vous en fait est primordial?
Moi, je dirais... J'ai tendance à dire qu'il est beau et donc il est disponible en ligne, et donc j'invite tout le monde à aller, même si il fait quand même un certain nombre de pages et donc on va pas tout lire, mais le feuilleter pour s'approprier justement ces actions et nous rejoindre dans ce qu'on essaye de faire collectivement.
Je souligne, je soutiens, et je tiens à préciser qu'il est aussi disponible en anglais.
Ah ben voilà.
Il a été traduit et donc il est disponible sur les pages durabilité de l'ULP en ligne.
On pourra mettre le lien peut-être avec le podcast de cette émission. Pierre Creur et Annabelle Ciscato, merci beaucoup d'être venus dans cette émission nous parler de ce rapport durabilité et qui va peut-être permettre de voir l'université autrement et peut-être de s'y investir autrement aussi. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
À une prochaine fois. Au revoir.
Au revoir.